Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans le psaume 150. Bien entendu, tout le psaume, c'est un tout petit psaume, il y a juste 6 versets. Mais quel contenu, quelle richesse de contenu. Alors, moi, je vous le lis dans la version Sterval, ici. « Louez l'Éternel, louez Dieu pour sa sainteté. Louez Dieu pour cette étendue qu'a faite sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon la grandeur de sa majesté. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lyre et la harpe. Louez-le avec le tambourin et les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. » Alors, on va prier pour obtenir la bénédiction du Seigneur. Seigneur, tu sais, nous sommes des pécheurs, nous confessons tous nos péchés. Notre âme a soif d'entendre ta parole, a soif de l'accueillir et aussi de lui obéir pour que ce qu'on entend, Seigneur, ça ne soit pas uniquement des mots, ça ne soit pas uniquement que ça devienne des actions dans nos vies, que ça aille dans nos mains, dans nos pieds, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos paroles et dans tout notre être. Alors, Seigneur, je te prie ce matin que ton esprit m'éclaire, me guide, m'illumine mon intelligence et mon être et ma façon d'exprimer. Et également, Seigneur, que ton esprit, l'onction de ton Saint-Esprit soit sur les auditeurs également. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, pour ce dernier sermon que je vais faire ici dans cette ville de Rouyn-Noranda. Je te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Alors, j'ai intitulé tout simplement la leçon d'aujourd'hui « Le point culminant de la louange pure ». Et vous allez voir pourquoi j'appelle ça le point culminant. On va regarder ça. Alors, les psaumes, on le sait, c'est des chants. C'était d'abord fait, c'est des chants que les Juifs utilisaient pour louer le Seigneur. Et il y a bien d'autres fonctions dans les psaumes que la louange. Mais les psaumes, les derniers, 146 à 150, sont des psaumes de louange. Et le psaume 150 est un de louange pure. Alors, bien entendu, les psaumes ont été, à travers le temps, tant pour les saints de l'Ancien Testament que pour ceux du Nouveau Testament et de ceux de toute l'histoire de l'Église, une source de réconfort. Moi, si je file pas bien, puis je file tout croche, puis je file triste, je m'en vais dans les psaumes 146 à 150 et ça rehausse mon âme. Ça, c'est comme automatique parce que là, Dieu t'amène à élever ton cœur, détourner tes yeux de ton nombril et les monter vers lui. Et quand tu les montes vers lui, automatiquement, tout ce qui est négatif en toi s'atténue et ça change. Alors, c'est une source de réconfort, les psaumes. C'est une source de joie. On parlait de joie tantôt. De joie au pluriel. D'instruction théologique, parce que les psaumes sont riches aussi en instruction dans la théologie. Ils sont riches aussi en prophétie. Il y a plein de psaumes qu'on dit que c'est des psaumes prophétiques, donc parce qu'ils parlent de quelque aspect de l'œuvre de Christ dans le temps. Et c'est aussi des psaumes, c'est des chants de louange, et bien sûr des chants de louange et d'adoration. D'adoration, c'est que normalement, après que tu as développé un psaume, que tu l'as lu, ça t'amène à adorer, plier le genou devant lui et reconnaître un aspect ou un autre de sa grandeur, de ses perfections. Chose que je vous avais déjà partagée, les psaumes 146 à 150 sont des louanges au Seigneur. Mais une chose qu'on ne prend pas nécessairement conscience à nos premières lectures, et même, je dirais, même après plusieurs années de lecture des psaumes, on ne le perçoit pas nécessairement du premier coup, c'est que ces psaumes-là évoluent en crescendo. Ça, quand on en prend conscience, c'est qu'à partir de 146, un chant crescendo, c'est un chant qui monte. Puis il monte un peu plus, puis il monte un peu plus, puis il monte un peu plus, puis il monte un peu plus. Donc 147 est plus haut que 146, et c'est en crescendo jusqu'au psaume 150. Pourquoi j'ai appelé le titre « Le point culminant » C'est que le psaume 150, c'est le plus élevé des psaumes de louange. Alors ça, c'est intéressant de noter ça, parce que quand on note ça, c'est que l'auteur, on dirait qu'il arrive à la fin, Et là, son rythme de louange, il dit 13 fois le mot « louer » dans 6 versets. C'est comme si, on dirait, il suffit. Il regarde Dieu, et là, il suffit. On dirait qu'il n'y a rien en lui qui suffit. Il va rapidement « louer, 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 louer ». Et il invite toute la création à se joindre à lui. C'est vraiment le point culminant. Chacun des psaumes commence et se termine avec le mot « Alléluia ». C'est un mot qui est utilisé à tort et à travers de nos jours, mais « Alléluia », le mot « Ya », ça veut dire « Alléluia », ça veut dire « Louer Ya », J-A-H. Alors, « Louer Ya » ou « Jéhovah », parce que « Ya », c'est une forme abrégée du mot « Jéhovah ». Quand vous lisez le psaume, on ne le voit pas du premier coup, parce que ça dit « louer l'Éternel ». Mais quel mot hébreu est là? Jéhovah. Et Jéhovah, c'est qui? C'est celui qui a une relation avec son peuple. Alors, il loue d'abord le Dieu qui est en relation avec son peuple. Et quand vous regardez après « louer Dieu », quand vous regardez « louer l'Éternel », pour ça dit « louer Dieu ». Parce que là, « louer Dieu », il utilise un autre nom hébreu pour... et c'est « elle ». Alors, on va regarder ça un petit peu. Alors, si vraiment le niveau de louange monte et s'amplifie graduellement pour atteindre son point culminant dans le psaume 150. Et j'ai trouvé une phrase dans un commentateur que j'ai trouvé tellement extraordinaire, je vais vous dire. Il dit « Le psalmisme atteint le dernier sommet de la chaîne majestueuse des montagnes des psaumes. » C'est un peu comme si on s'élève là. C'est un peu comme si on s'en irait sur le mont Everest, il s'en va sur le plus haut. Et après, il dit, « Ce dernier sommet baigne dans la lumière du monde de l'adoration éternelle et céleste. » C'est comme s'il nous faisait monter le plus haut qu'un homme peut monter, puis là, tu es au seuil de l'adoration universelle et collective du ciel. Je trouve ça tellement beau, la manière qu'il a exprimé ça. Alors, c'est le ravissement absolu, l'enthousiasme le plus exalté et l'admiration éperdue. Une admiration éperdue, ça veut dire que tu es en proie à une très, 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 très vive émotion. Chacun des versets augmente en intensité de louange, d'amour et de joie pour atteindre l'état extatique. On ne se rend pas nécessairement compte de ça, nécessairement en lisant, mais c'est vraiment là. L'extase, ça désigne un état où l'individu se ressent comme transporté hors de lui-même. 13 fois le mot « louer », c'est comme... on dirait qu'il sait plus quel mot choisir, il sait plus... Il est tellement élevé dans sa façon de voir Dieu, là, que là, il ne fournit plus à trouver des mots. Puis c'est intéressant. Transporté hors de lui-même. Alors, il est caractérisé par un ravissement, une jouissance... ou une joie extrême. Le psaume comporte 13 Alléluia sur un espace de 6 courts versets. Ça, c'est John Gill qui les a comptés. Donc, je me fie sur sa connaissance de l'hébreu pour dire que c'est très certainement vrai. Alors, cette finale sublime est celle du berger. On sait que tu es un berger, notre ami David. Du héros, tu es un héros de guerre. Puis c'est un vieux serviteur. Et David est rendu au sommet de ce qu'on pourrait dire son art et de son habileté poétique, parce que c'est de la poésie. Alors, c'est de la poésie élevée à sa plus haute expression. Et il dit, c'est comme un vase de parfum brisé sur le seuil du temple céleste. Moi, je trouve ça tellement beau, là. Tellement beau. Là. Parce que je lisais des commentateurs, certains commentateurs, même des païens qui ont étudié le psaume 150 ont dit du psaume 150 qu'il n'y a aucune poésie d'homme qui peut se mesurer, même la meilleure des hommes, ça ne peut pas se comparer à la poésie exprimée dans les derniers psaumes. C'est de la poésie très, très, très exaltée, très haute. Si vous remarquez dans le psaume 150, David ne cherche pas aucunement à argumenter. Il ne cherche pas non plus à expliquer. Il ne cherche pas non plus à enseigner ce qu'il fait souvent dans d'autres psaumes. Ici, ce qu'il fait, il loue, il loue et il loue. Et invite toute la création, non pas seulement les chrétiens, Que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est beaucoup plus large que juste les chrétiens, ça. Alors, il se rend compte de la grandeur de Dieu et il sait que ça mériterait que toute la création ensemble loue en harmonie et en cœur. Mais il sait très bien que ça, c'est comme un souhait, c'est le souhait de son cœur. Ce que je trouvais le fun, il dit, « L'homme qui donne de la louange à un autre qu'au Seigneur est un honteux traître. » Et après ça, il dit, « Quant à l'homme qui refuse de la lui rendre, il est un voleur sans cœur. » Parce que quelqu'un qui ne loue pas Dieu, c'est parce qu'il est tellement renfermé sur lui-même, il est tellement aveugle à tout ce que le Seigneur fait pour lui, pour l'humanité, pour la terre, pour sa famille, etc. là. C'est que s'il ne loue pas le Seigneur, c'est vraiment un sans-cœur, c'est vraiment une personne qui est complètement déconnectée, inconsciente. Maintenant, on va commencer. Je vais diviser la leçon en trois, les trois points traditionnels. La louange pure, le « ou », le verset 1. Dans les versets 2, c'est la louange pure, le « pourquoi ». Et dans la louange pure, le verset 3 à 6, c'est le comment. Alors, on va regarder aujourd'hui, immédiatement, là, où louer le Seigneur, dans le verset 1. Je vais vous la lire dans deux versions différentes parce qu'il y a des petites nuances dans la façon de traduire que je trouve qui sont importantes. Pour ça, j'ai noté les deux. Alors, si je le prends dans la version Sterval, qui est la mienne, ça dit « Louer l'Éternel, louer Dieu pour sa sainteté ». Donc, tu loues, l'Éternel, c'est qui? Jéhovah. Le deuxième, c'est elle. Et à ce moment-là, louer Dieu pour la première chose pour laquelle David demande que toute l'humanité se joigne à lui, c'est la sainteté. La première chose qu'il mentionne, c'est la sainteté de Dieu. Et après, il dit « Louez-le pour cette étendue qu'a faite sa puissance ». Alors, dans la version Louis II, ça dit « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire ». Au lieu de dire « Louez Dieu pour sa sainteté », ça dit « Louez Dieu dans son sanctuaire ». Mais on le sait, le sanctuaire, c'est l'endroit le plus saint où Dieu habitait, comme dans le tabernacle. Le Saint des Saints, c'était là où Dieu habitait. Alors, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue au éclat de sa puissance. Oui, il y en a un qui prend pour sa sainteté. J'avoue que je n'ai pas la compétence nécessaire pour savoir lequel est le meilleur. Mais en tout cas, je pense que ça nous donne comme une version un petit peu différente. Là, on parle dans son sanctuaire. Deux noms de Dieu, je vous ai mentionné tantôt, sont mentionnés dans le verset 1. Yah, qui est le premier, et le deuxième, c'est El, E-L. Le mot hébreu « Yah » a été traduit par « l'Éternel » et le mot hébreu « El » a été traduit par « Dieu ». Mais ces deux noms-là sont hautement significatifs. Ce qu'on manque souvent le bateau quand on lit les Écritures, c'est parce qu'on ne médite pas sur le texte. Pourquoi il utilise l'Éternel dans la... Puis après ça, il parle de Dieu. Et donc, c'est deux mots différents. Mais dans les Écritures, l'Esprit-Saint a inspiré chaque mot des Écritures et l'ordre même des mots, les mots utilisés, véhiculent des idées extrêmement intéressantes qu'on se devrait de percevoir et d'apprécier. Alors, Yah, c'est vraiment la forme raccourcie de Yahweh ou de Jéhovah, dépendamment de... En tout cas, c'est toute une histoire, on ne rentre pas là-dedans matin. C'est le fameux tétragramme hébreu composé de quatre consonnes. Pourquoi les Hébreux ne voulaient pas prononcer, quand ils voyaient ça, là, quatre consonnes, mettez quatre consonnes l'un derrière de l'autre pour essayer de prononcer ça. Ça prend des voyelles. Si tu n'as pas de voyelles, quatre consonnes, tu colles l'un derrière de l'autre, T, P, ça ne se prononce pas. Pour ça, une des raisons pour laquelle c'était pour des raisons qui obéissait à la loi aussi. Là. Mais donc, quatre consonnes, c'est imprononçable en soi. C'est le Dieu de l'Alliance. Quand on parle de Jéhovah, Yah, Jéhovah ou Yahweh, on parle du Dieu qui est en relation avec son peuple. C'est bizarre que le premier mot dans la louange, il invite toute la terre à se joindre à lui, mais le premier mot qu'il utilise, c'est Dieu de l'Alliance. Ça, c'est intéressant de noter ça. Et dans la King James, le psaume 68, verset 4, dans la version française, on ne le voit pas ça, mais dans la version anglaise, on le voit. C'est « Sing unto God, sing praises to his name, extol him that rides upon the heavens by his name, Yah, and rejoice before him. » Oui, vous, dans le psaume 108, le mot qui est utilisé, c'est « his name, Yah ». Là, ils ont vraiment nommé son nom, Yah. Elle, c'est le nom de Dieu qui est relié avec la pouvoir, avec la puissance, avec la force. Et ça fait référence à sa souveraineté. Parce que quand vous allez regarder, après qu'il a nommé les deux noms, qu'est-ce qui fait référence? Il parle de l'étendue. Après avoir dit sa sainteté, autrement dit, tous les attributs de Dieu sont caractérisés, la sagesse est sainte. Nommez-les, là, les 25 attributs, disons qu'on en a 25 pour les besoins de la cause. Puis chaque attribut est dominé par la sainteté. Une puissance infinie qui ne serait pas dominée par la sainteté, ce serait extrêmement dangereux. La sagesse, tout est contrôlé par la sainteté de Dieu. Donc Dieu veut, la louange commence par la sainteté. Et après, il utilise le mot « elle », mais le mot « elle » ouvre notre intelligence à la découverte de la grandeur, de l'étendue de l'univers, autrement dit. Ça, c'est très intéressant. Le sanctuaire, on le sait, c'est l'endroit le plus saint, le plus sacré. C'est l'endroit où Dieu habite. Le tabernacle terrestre avait un sanctuaire, le Saint des Saints. Mais il y a aussi un tabernacle céleste, là où Dieu reçoit le service, reçoit la louange universelle et collective, reçoit le service des créatures qui vivent avec lui, les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament et de toute l'histoire de l'Église. Et les anges, bien entendu. Dans cet endroit, tout est sainteté. Alors, à quelque part, c'est sûr que Dieu, pourquoi il veut qu'on se sanctifie sur la terre, c'est pour préparer à vivre dans cet endroit-là. Parce que s'il ne nous préparerait pas, on ne trouvera pas ça agréable de vivre là. Plus on va se sanctifier, plus on va avoir le goût de vivre dans cet endroit où il n'y a plus de péché sous aucune forme. Tout est sainteté. Alors là, les voix s'unissent en cœur pour exalter la glorieuse personne de Dieu. Et certains auteurs font la référence, on dit « louer Dieu pour sa sainteté », et dans certaines versions, on dit « dans son sanctuaire ». Mais dans le fond, quand on regarde dans l'étude du tabernacle, dans le Saint des Saints, il a été ouvert quand le rideau? Quand Christ est mort. Donc, on pourrait parler que la sanctuaire, c'est Christ lui-même, parce que le coffre d'or faisait référence à sa divinité et à son humanité, et ce qu'il y avait dedans, on se souvient, les trois choses qu'il y avait dedans. Alors, et ça peut faire aussi référence à l'assemblée des saints, le sanctuaire, parce que nous sommes, jusqu'à un certain point, le sanctuaire, parce que nous sommes habités par le Saint-Esprit. Donc, à quelque part, ces trois idées-là, on pourrait développer ça, voyez-vous, juste le verset 1. Ça me fait l'impression qu'on pourrait faire plusieurs sermons juste sur le verset 1. Maintenant, il dit « louez-le pour sa sainteté, mais louez-le pour dans l'étendue. L'étendue, c'est le firmament où Dieu manifeste sa toute-puissance. Mais si on ne s'arrête pas un petit peu à méditer sur ce qu'il veut dire par ça, là, on manque le bateau parce que il y a des choses importantes qu'on a besoin de se remémorer si on veut apprécier cela à sa valeur. Alors, Dieu, ici David et Dieu également par la parole, nous invite à nous émerveiller sur la création par le Seigneur du soleil, de la lune, des étoiles, de l'univers. Et si on veut apprécier le moindrement, je suis allé chercher dans mes leçons précédentes des faits qu'on avait déjà regardés sur l'univers, sur la grandeur de l'univers, sur la grandeur des astres. Et je pense que là, plus on rentre dans les détails de cela, plus notre esprit devient en adoration. Premièrement, le soleil. Là, je vous mentionnais quelques petits détails on le voit tous les jours, mais on ne se souvient pas toujours à quel point il est grand, cette affaire-là. Le soleil a un diamètre. Diamètre, si vous prenez un cercle, le diamètre, c'est la ligne qui va de centre à centre. mesure 1392 millions de kilomètres. C'est-tu gros le soleil ou c'est pas gros? 109 fois le diamètre de la Terre. Sa masse représente 333 000 fois la masse de la Terre. 333 000 fois la masse de la Terre. La température à la surface du soleil est de 5500 degrés Celsius. Elle est de 14 millions de degrés Celsius en son centre. Je t'ai conseillé de ne pas tomber là. L'énergie et la lumière du soleil mettent environ 8 minutes pour parcourir à la vitesse de la lumière les 149 millions de kilomètres qui les séparent de la Terre. La vitesse de la lumière, là, il faut allumer, 186 000 milles à la seconde. 25 fois le tour de la Terre en une seconde. Et ça dit que ça prendrait... Ça démontre jusqu'à quel point c'est loin de nous. Alors, on sait que tout ce qu'il y a sur la Terre, la vie, le soleil, par la chaleur et par la lumière, contribue au bien-être de tout ce qui existe sur la Terre. Sans soleil, on ferait pitié. Maintenant, la Lune. La Lune est 4 fois plus petite que la Terre et 81 fois plus légère. C'est l'objet céleste le plus proche de nous et le deuxième corps le plus brillant dans le ciel. Sans la Lune, il est probable que la vie telle que nous la connaissons n'ait jamais pu voir le jour sur Terre. On ne pense pas souvent à ça. Malgré le fait que la Lune ne soit que notre satellite naturel, son influence sur notre planète est immense. Ça non plus, on ne pense pas à ça souvent. C'est elle qui organise le va-et-vient incessant des marées grâce à la force gravitationnelle. Quand on pense à toutes les eaux qui sont sur la Terre, à la grandeur de la planète, le mouvement de va-et-vient, c'est la petite lune qui fait en sorte que ça bouge ces affaires-là. C'est sa force, la force gravitationnelle, qui maintient la Terre sur son axe légèrement penché. Si la Lune ne maintiendrait pas la Terre sur son axe légèrement penché, on n'aurait pas l'existence des saisons. On voit-tu la main de Dieu là-dedans? Hey, c'est extraordinaire. Sans la Lune, notre Terre serait un monde déchaîné par les vents violents et les cataclysmes, et seule une forme de vie primitive serait capable de résister à un tel climat. La main de Dieu dans le soleil, la main de Dieu dans la Lune, et le rôle qu'elle a joué par rapport à la Terre. Mouvement des marées et aussi l'inclination de la Terre par rapport à un certain angle qui fait en sorte qu'on jouit des saisons. Maintenant, les étoiles. Il dit, oui, louez-le pour l'étendue. Lequel d'entre nous a déjà pris le psaume puis dire, OK, c'est quoi ça, l'étendue? Pourquoi je dois le louer? Regarde, ici, tu n'auras une raison. Leur nombre des étoiles est absolument ahurissant. On l'a mentionné dans la leçon précédente. Si un ordinateur avait la capacité d'observer 10 millions d'étoiles à la seconde, imaginez-vous, dans une minute, 60 millions, 600 millions, ça dit. 60 fois 10, ça fait 600. 600 millions, dans une minute, 600 millions d'étoiles. Il y aurait besoin de plus de 63 millions d'années pour compter toutes les étoiles. Il y a quelque chose de... C'est tellement grand, et je ne suis même pas sûr que c'est tout l'univers au complet. C'est l'univers qui est observé par les sciences modernes puis par les moyens modernes. Alors tout ça, c'est d'une puissance extraordinaire. Et l'astronomie moderne estime à 200 milliards d'étoiles, le nombre d'étoiles dans la seule galaxie appelée la Voie lactée. Ça, c'est l'anneau. 200 milliards d'étoiles. Un milliard, c'est 1000 millions. 200 milliards dans la Voie lactée. Mais il y aurait 100 milliards de galaxies dans l'univers. Alors, quand on dit « Louez-le pour l'étendue » ou « éclate », les mots là, sont importants, ou « éclate », quand quelque chose éclate, là, quand on dit, par exemple, une ouverture de jeu, on dit « c'était une ouverture éclatante », éclate sa puissance. Comment peut-on ne pas voir la puissance de Dieu quand on mentionne ces faits-là? Et là, on le fait de façon superficielle. Plus quelqu'un aurait de connaissances en astronomie, plus il pourrait louer le Seigneur avec encore plus de cœur. Maintenant, on va passer au point 2. Pourquoi louer le Seigneur? Le psaume 150, verset 2. Je vais les lire encore une fois dans la version Esterval et la version Louis II 1910, parce qu'il y a des petites différences, je trouve, qui est clair dans notre compréhension. Louez-le pour ses hauts faits. Là, quand on dit louez-le pour ses hauts faits, là, il faudrait mettre ses hauts faits, deux points. Haut fait numéro 1. Haut fait numéro 2. Haut fait numéro 3. Lequel d'entre nous s'est déjà même donné la peine de nommer un haut fait? Il dit « Louez-le pour ce qui est au fait ». On les nomme même pas, on les imagine même pas. Comment on peut louer le Seigneur pour ce qui est au fait alors qu'on se donne même pas la peine de regarder c'est quoi les hauts faits du Seigneur? « Louez-le selon la grandeur de sa majesté ». Et là, le verset dans Louis II 1910, « Louez-le pour ce qui est au fait, louez-le selon l'immensité de sa grandeur ». Alors, c'est en anglais, c'est « according to ». Il faut que tu le loues dans la mesure où tout ça est grand. Et comme on sait que c'est infini, ben avant que tu sonnes au bout, tu as du chemin à faire, petit bonhomme, ou petite bonne femme. Alors, pour ces hauts faits, je vais en nommer 4, puis on va essayer de les développer un petit peu, pour que, si jamais on veut prendre le psaume 150 et le mettre en pratique. Alors, si je vous disais, nommez-moi des hauts faits, on peut en nommer quelques-uns, des miracles, des affaires de même. Mais on peut les classifier en grandes catégories. C'est ce que les auteurs qui étudient le psaume 150 font. Ils prennent des grandes catégories et après ça, on pourrait aller dans des sous-points de la catégorie. Alors, le premier point, c'est celle de la création. Louons-le pour son œuvre, son haut fait de la création. Alors, on vient de citer quelques faits sur le soleil, la lune, les planètes, les étoiles. Alors, attardons-nous quelque peu à nous émerveiller de d'autres aspects de la création. Nous ferons ici quelques observations sur les oiseaux, les poissons, les animaux, pour nous faire apprécier davantage la grandeur, la perfection et l'utilité de sa création. On prend les oiseaux, parce que quand on dit le Willop, c'est au fait, sa création, donc dans sa création, il a créé les oiseaux. Alors, presque la moitié des espèces d'oiseaux sont directement utilisées par les gens. Sur les presque 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde, 45% sont utilisées pour une raison ou une autre par les hommes. Plus d'un tiers des espèces d'oiseaux servent d'animaux de compagnie et à peu près une espèce sur 7 est chassée pour la nourriture. Il est difficile de savoir combien d'oiseaux cela représente. On peut savoir 10 000 espèces, mais si on voudrait savoir le nombre d'individus, là, on a un autre problème, mais il y a quand même eu des estimations qui ont été faites. Pour la seule Europe, on estime qu'il y aurait entre 500 000 000 et 1 milliard d'oiseaux chanteurs qui sont chassés chaque année par le sport ou par les fins alimentaires. C'est énorme! 10 000 espèces, des milliards d'oiseaux. Quand on dit « louez-le pour ses hauts faits », on peut le louer pour la création, on peut le louer pour la création des oiseaux. Après ça, on peut le louer pour la création des poissons. Des fois, quand je regarde des émissions de télévision, il y a des émissions spéciales sur les poissons. C'est assez particulier, hein? On n'en revient pas chaque fois. Puis des fois, ceux qui vont filmer ça, ils nous disent, avant, on ne l'avait jamais vu, ça. Ils viennent de découvrir ça, là, en 2015, 2016. Alors, on n'a pas fini, même l'humanité, avec tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, on n'est même pas fini d'inventorier tout ce qui existe sur cette terre-là. Alors, on parle de 274 espèces animales marines. 274 espèces, 1000. C'est presque un quart de million. Plus qu'un quart de million. Des chercheurs américains ont estimé entre 10 et 100 millions le nombre total d'espèces animales présentes dans l'océan, ce qui représente un énorme potentiel de richesse biologique pour l'humanité. Mais l'article mentionnait aussi « une espèce de poisson sur trois est menacée d'extinction ». et les eaux de surface dans nos océans sont de plus en plus vides. Le Time Magazine titrait en 2007 « Un océan de rien ». Et le quotidien Le Monde annonçait « Sans changement, les poissons pourraient disparaître des océans d'ici à 2050 ». Alors Dieu nous a donné des immenses richesses, il nous a donné des choses extraordinairement, et les hommes, on est en train de ruiner sa création. À quelque part, quand j'ai lu ça, je me disais, le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il disait aux Juifs, « Vous savez observer les signes des temps, mais vous ne savez pas observer les signes du royaume. » Moi, j'en vois un signe des temps ici. Je le vois très clairement. On est en train de ruiner la terre que le Seigneur nous a donnée par toutes sortes à cause de nos folies et de l'appât du gain. Maintenant, les animaux. Bon, on parle des oiseaux, des poissons, on va lire les animaux. Selon une nouvelle étude publiée par la revue PLOS Biology, la Terre abriterait entre 7,4 et 10 millions d'espèces d'animaux. Alors, quand on regarde ça, c'est assez extraordinaire. Les chiffres, j'ai tout pris quelque part dans des livres, là, mais je pense que c'est des sources fiables. Maintenant, OK, on a regardé le ciel, on a regardé l'ensemble des choses, en gros, la vie sur Terre, mais on a oublié une personne, c'est nous. Le psaume 139, dans le verset 14, nous dit que l'être humain en soi est une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. » Beaucoup de bouquins, beaucoup d'émissions de télévision, beaucoup de vidéos, beaucoup de films ont été faits sur les côtés merveilleux de l'anatomie et de la physiologie humaine. Je me souviens d'avoir lu qu'un scientifique s'était converti au christianisme en étudiant en détail la structure extrêmement complexe de l'œil humain. Alors, quand quelqu'un, plus il rentre dans l'étude approfondie de l'anatomie et de la physiologie humaine, plus il est émerveillé. Parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont tellement extraordinaires que notre esprit ne suffit pas. Et juste pour montrer jusqu'à quel point l'être humain est complexe, la médecine moderne, on le sait, elle a fait d'énormes progrès. La science médicale est maintenant tellement développée qu'aucun être humain, aussi brillant, aussi savant qu'il soit, ne peut maîtriser tout le savoir humain accumulé au cours des siècles dans une seule discipline. Et je me souviens, quand j'ai étudié un petit peu l'anatomie, là, quelques années, on parlait des 12 systèmes. Système nerveux, système squelettique, système musculaire, etc. Juste dans un système, un être humain ne peut pas aller chercher toute la connaissance qui existe, même chose. Imaginez-vous. Alors, quand on dit « je te loue pour ta création », je pense qu'on manque, on manque. Alors, le système respiratoire, le système digestif, le système reproducteur, le système endocrinien, le système cellulaire, le système immunitaire. Quelqu'un, apparemment, qui a un des systèmes les plus complexes à étudier, c'est le système nerveux. Apparemment, c'est tellement d'une complexité, tellement grande. Quelqu'un peut passer toute sa vie à étudier juste ça, puis il n'a même pas épuisé tout ce qui est connu sur ça. On est-tu fait d'une manière un petit peu merveilleuse? Oui, le psaume 139, verset 14, nous le dit. Un au fait, la création. Un deuxième au fait. La providence. Alors ici, j'ai trouvé un article sur Internet qui est écrit par un chrétien qui s'appelle Henri Lucher, qui écrit sur la providence de Dieu. J'ai trouvé que ce qu'il disait est tellement bien écrit, tellement intelligent, que j'ai voulu le reproduire intégralement dans la leçon. Il dit sur la providence de Dieu, c'est un sujet dont on ne parle plus guère. Les avancées de la science et de la technologie ont contribué en partie à rendre l'homme totalement autonome face à un Dieu évacué dans notre monde occidental. Il y a à peine 100 ans, on parlait encore de la providence comme désignant Dieu. On croyait en un Dieu souverain qui règne et qui domine sur l'univers. Le sécularisme a fermé l'accès au transcendantal, au surnaturel, parce que dans ce monde désacralisé, la vie se meut dans un système mécaniste où les événements sont dus à des lois fixes et impersonnelles de force ou de chance. L'évolutionnisme, ayant totalement imprégné la science et la technologie humaniste, constitue un des principaux éléments du rejet de la Providence. Et vous, quand on étudie le sujet de la Providence, pas pour rien, plus on étudie ça, plus on se rend compte que Dieu est au contrôle. Plus on croit à l'évolution, plus on croit que, bon, je suis tout des hasards, puis ça arrive tout seul. Alors, il dit d'autre part. Alors là, il identifie une chose qui fait en sorte qu'on y croit de moins en moins, l'évolution. Deuxième chose, il dit, d'autre part, le nouvel âge, élément important du postmodernisme, est fasciné par l'irrationnel qui, de son côté, attaque la providence de Dieu en propageant l'ésotérisme, l'occultisme, l'animisme moderne. Et ça, la dernière phrase est très importante. Ce sont les armes de l'ennemi de Dieu, Satan, qui désire remplacer la providence de Dieu par un retour à un paganisme moderne de superstition dominé par lui. Alors, la création constitue l'œuvre originale de Dieu. La providence, elle, constitue la continuation de l'œuvre de Dieu en vue de l'achèvement de ses plans. Elle comporte deux aspects. On l'avait vu dans notre leçon sur elle comporte celui de la préservation. Donc, Dieu n'a pas juste créé cela, c'est lui qui nous dit dans Hébreu qu'il maintient tout cela à l'existence par sa parole puissante. Alors, la préservation, et ça comprend aussi son gouvernement, la direction. Et ça va dans toutes les directions, le gouvernement du monde, le gouvernement des vies, des individus. Tout cela, ça fait partie de la providence de Dieu. Alors, la providence par la préservation de la création de Dieu. Il dit « Tout subsiste par Christ. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il soutient toute chose afin d'accomplir ses desseins. » Colossiens 1, 17, Hébreux 1, 3. Toute la création dépend de lui. La nature, les hommes, son peuple, tous les siens. Alors, bien sûr, je pense que je vais aller un petit peu rapidement là-dessus. Alors, si jamais ça vous intéresse, les notes... Alors, ce qui veut dire, c'est que non seulement ça contient... Il y a deux aspects, celui de la préservation. Tout ce qui existe est préservé par lui, et tout ce qui existe est dominé, contrôlé, dirigé, donc le gouvernement. On est dans sa providence, nous. Plus on prend conscience de ça, plus on sait que Dieu permet toutes sortes de choses dans nos vies, et c'est toujours, on l'a de vu de maintes et maintes reprises, c'est toujours pour notre plus grand bien. Tout ce qui s'est passé dans les églises, dans notre église ici, depuis 5 ans, tout ça, dans les moindres petits détails, contribue à faire de nous les meilleures personnes. Parce qu'on apprend l'un de l'autre. On fait des erreurs, on apprend. Et tout cela contribue par la providence, parce que Dieu contrôle et dirige toutes ces choses-là. Plus on prend conscience de ça, là, plus on est satisfait et on est content. Peu importe ce que tu me fais vivre, Seigneur, c'est pour mon bien. Vas-tu me plaindre de ça, moi, là? C'est ça. Alors, la providence par la préservation et la providence par le gouvernement. Alors, il gouverne les forces de la nature. Fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes, domine le vent, domine la mer, gouverne les peuples en faisant leur histoire et leur destinée. Il a gouverné de telle façon que tout a convergé vers la plénitude des temps accomplis dans Galates 4:4, quand le Seigneur, dans sa providence, il a préparé le terrain à l'arrivée de Christ. Il fallait que ce soit des circonstances particulières, les Grecs qui dominaient, les Romains et tout cela. Tout ça, là, ça a été pensé, réfléchi, dirigé, contrôlé par le Seigneur. Y a-t-il de quoi se réjouir? Il y en a plein de choses à découvrir comme ça. Et ça, ce que j'aime, c'est qu'il gouverne les individus. On en a parlé tantôt, mais je vais vous lire ce qu'il dit. Il gouverne les individus en restant le souverain dans toutes leurs circonstances. Ça, on a de la misère à garder ça en mémoire. C'est lui qui fait mourir. C'est lui qui fait vivre. C'est lui qui appauvrit. C'est lui qui enrichit. 1 Samuel 2, versets 6 et 7. Il abaisse les puissants de leur trône, élève ceux qui sont abaissés. Prends Marie, et on pourrait multiplier les exemples. Alors, par exemple, le choix des serviteurs. Paul était choisi avant même qu'il existe, qu'il deviendrait un serviteur de Dieu. C'est ça la providence. Alors, nous disons avec le psalmiste, « mes temps sont dans ta main. » Dieu contrôle nos temps, nos circonstances et toutes nos expériences, celles qui sont heureuses et celles qui sont douloureuses. Dirige aussi les actions libres des hommes. Par exemple, les Israélites à la sortie d'Égypte ne sont pas sortis du pays les mains vides, parce que Dieu leur avait promis et avait guidé les circonstances et les cœurs des Égyptiens pour qu'ils leur donnent leurs bijoux. Et le Seigneur permet aussi ou empêche le péché pour faire éclater notre incapacité naturelle à ne pas commettre de péché. Ça, on répète là. Il peut permettre ou empêcher le péché pour faire éclater notre incapacité naturelle à ne pas commettre le péché. Même si moi je me décide aujourd'hui, je ne veux plus pécher. Pensez-vous que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Parce qu'il dit, il permet peut-être que certains péchés, comme moi, mes péchés s'expriment, s'actualisent dans la vie, pour me montrer jusqu'à quel point j'ai besoin de lui, pour me montrer jusqu'à quel point j'ai besoin d'être payé pour qu'il corrige lui-même les choses qu'il a corrigées. Parce que moi, je n'y arriverai pas même si je veux. C'est ça qui est de merveilleux. Alors, de voir tout cela dans la Providence. On pourrait parler de la femme de Potiphar, on pourrait parler de Joseph, quand il était... Et tout cela, là, mais imaginez-vous quand on dit, disons qu'on dirait, je loue Dieu pour sa création. Bon, une journée, tu pourras dire, on va y aller avec les oiseaux. Le lendemain, tu pourras, ah, il y a un petit oiseau qui vient chez nous, il est jaune, il est petit, je le vois, c'est agréable de voir ça. Une autre journée, tu pourras dire, OK, prends un autre oiseau, t'envoies un autre. Le lendemain, ça pourrait être pour... Les arbres que tu as chez vous, vous avez des framboisiers, vous avez des poiriers, des pommiers. On a ça en dessous des yeux à longueur de journée, puis on a de la misère à dire au Seigneur, merci pour m'avoir donné un framboisier. Je ne vous dis pas que vous ne le faites pas, là, mais je dis qu'en général, on est comme ça. On a les choses en dessous des yeux, puis on a de la misère à les apprécier, puis à reconnaître que la main de Dieu est dans tout cela. Le troisième grand fait, on parlait de hauts faits. Donc, on a la création, la providence, la troisième, la rédemption. Si ce n'était pas de la rédemption, vous le dites, on ne serait pas assis ici, personne, puis moi, je serais pas en avant en train de vous prêcher. C'est sûr et certain. Alors, Isaïe 43, verset 3 et verset 11. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Voyez-vous, ici, on parle du Père, puis on accroche un titre au Père, comme étant le sauveur. D'habitude, c'est Christ le sauveur. Mais est-ce que le Père était inclus dans l'œuvre de la rédemption? Bien sûr! Il dit dans le verset 11, « C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y a point de sauveur que moi. Comme un bijou, un joyau aux multiples facettes, l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ est présentée dans la Bible sous différents aspects. » C'est comme ce serait, on regarde un diamant. Et on va regarder un aspect, l'élection. Pensez-vous que vous avez tout compris sur l'élection? Pensez-vous que vous avez tout compris sur l'incarnation? On dit souvent le mystère de l'incarnation, Dieu qui s'incarne dans une chair d'homme. Pensez-vous que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la justification? Pensez-vous que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la sanctification? Pensez-vous que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la propitiation? Pensez-vous que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur l'adoption? Et je pourrais mettre des etc., etc., etc. Tous des aspects, des facettes. Quand vous rentrez dans une bibliothèque, là, des fois, de théologie, là, juste les livres de théologie peuvent prendre 15-20 tablettes, puis souvent les mêmes thèmes reviennent, mais quand vous lisez un livre par rapport à l'autre, certains auteurs voient des choses que l'autre n'a pas vues. C'est tellement une œuvre grande, la rédemption. Il y a tellement de facettes que toute une vie ne suffira pas pour épuiser toute la richesse, toute la beauté, toute l'harmonie qu'il y a là-dedans. Alors, le haut fait de la rédemption, mais ça dit aussi dans le psaume 150, verset 2b, là je vais vous donner encore là, Osterval et King James, louez-le selon la grandeur de sa majesté, et la King James dit « Praise him according to his excellent greatness ». Sa grandeur excellente. Chacun des attributs de Dieu est infini, on l'a répété à maintes et maintes reprises. Alors, aussi n'épuiserons-nous jamais le bassin de louanges possible, puisque celui-ci est insondable. Comme croyant individuel et comme croyant adorant collectivement, nous devrions porter une attention particulière à ce que notre adoration soit remplie de révérence, remplie de joie, remplie de gratitude et remplie d'admiration sans borne. Une admiration, je ne sais pas si vous avez déjà connu des fois les êtres humains envers d'autres êtres humains, leur admiration est presque sans borne. Ils sont émerveillés devant des créatures. Créature, c'est comme des grains de poussière par rapport à Dieu. Et encore, le grain de poussière est trop gros. C'est énorme, c'est tellement gros. Alors, dans notre adoration, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit de couple, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit d'église locale, toutes ces choses-là devraient se retrouver dans notre adoration. De là, la nécessité de prier. De là, la nécessité de se préparer. On arrive à un culte, bien souvent, je le sais par expérience, je vous accuse pas, je m'accuse moi-même. On arrive à un culte pas préparé. On arrive à un culte en retard. On arrive à un culte, toutes sortes de choses comme ça qui font en sorte que les éléments qui devraient être dans le culte d'adoration, parce que se préparer, c'est prendre un temps pour se recueillir en sachant, en prenant conscience de ce que tu vas faire, là. Dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Et on ne le fait pas souvent, ça, j'avoue. On devrait le faire. Parce que quand on rentre en adoration, quand on rentre en louange envers Dieu, quand on rentre dans la gratitude envers le Seigneur avec tout ce qu'il a fait pour nous, qu'il continue de faire et qu'il va continuer de faire jusqu'à la fin, notre admiration devrait être sans borne. Et on se devrait aussi de confesser nos péchés. Peut-être une des raisons pour lesquelles on devrait arriver un petit peu avant dans un culte, c'est qu'on prend le temps de voir devant qui on se trouve, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et préparer notre âme à la réception de ce que Dieu veut vous dire personnellement. On perd tellement confiance de ça, là. Je le sais par expérience, je l'ai fait tellement d'années. T'en vas, c'est un peu routinier. Il faut se préparer à recevoir la parole de Dieu par la prière, par la méditation, par la confession de tes péchés. Bien sûr, tu peux dire, ben, je l'ai fait chez nous. Mais tu peux prendre 5 minutes à l'église, ça n'ira pas non plus, là. Spurgeon, on attribuait la force de la prédication de Spurgeon à sa fournaise. C'est-tu parce qu'il y avait une fournaise dans le sous-sol? Non, c'est parce que les chrétiens arrivaient avant et s'en allaient dans le sous-sol puis priaient collectivement pour le succès de la prédication. Pensez-vous que ça faisait un effet, ça, sur sa prédication?
Oui.
Ben voyons. Poser la question, c'est d'y répondre. Peut-être qu'on aurait intérêt à remettre en fonction la fournaise. On le fait peu. Et le troisième point, c'est le verset 6. Comment louer le Seigneur? Verset 3 à 6. Et là, on dirait qu'il ne fournit pas à nommer des instruments. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lyre et la harpe. Louez-le avec le tambourin et les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Alors, si vous remarquez les grandes idées dans les versets 3 à 6, il parle de diversité. La trompette, il y a versets 3 à 5 mentionne toutes les catégories d'instruments à musique. Les instruments à vent, les instruments à cordes, et les instruments de percussion. La voix humaine, bien sûr, est incluse, et l'ensemble du corps humain, parce que il va avec, parce que la voix humaine, bien souvent, là, une église, si elle aurait une église qui chante, comme souvent on fait, on n'a pas de musique, on peut, avec la voix humaine, faire un culte d'une beauté extraordinaire, si on y met toute notre âme et tout notre degré de conscience nécessaire. Alors, ici, les idées suivantes sont suggérées par le choix des instruments. Moi, je dis qu'avec le psaume 150, quelqu'un qui s'y mettrait, là, puis voudrait y aller vraiment en détail, il nous prend un an. Voyez-vous ça? Parce que chaque instrument a une signification. Chaque instrument est utilisé dans une fonction particulière dans les Écritures. La trompette, elle servait à quoi? C'était retentissant. C'était associé au grand moment de rassemblement du peuple d'Israël. Le don du décalogue. Quand il y a eu le décalogue, la trompette pétait. Pourquoi? Il y a de la solennité dans la trompette. Il y a la proclamation du jubilé à chaque 50 ans. Le Seigneur permettait que les esclaves... Et autrement dit, tes dettes s'accumulaient après 50 ans. Il y avait une sagesse énorme là-dedans, une sagesse qui... C'est divin, hein. Imaginez-vous, tu t'endettes, là, au bout de 50 ans, Seigneur, dis-toi plus rien. On recommence à zéro. C'est-tu une raison pour dire, je vais m'endetter, puis il va effacer mes dettes? Non! Mais c'est parce que le Seigneur connaissait la misère des hommes, et il savait que c'est ça qui se produirait. Certains prendraient tout le pouvoir, puis ils ramasseraient toutes les... Et il permettait que le peuple israélite faisait ça. Le jubilé. Et le jubilé, pour le proclamer sa solennité, qu'est-ce que tu pouvais te rappeler quand tu entendais la trompette de la jubilé? La miséricorde de Dieu. Tu pouvais dire, Seigneur, moi qui ai géré comme un fou, comme un insignifiant, qui a mal géré les biens que tu m'as donnés, maintenant tu permets que je retombe à zéro. C'était. Et il y avait ça, il y avait aussi le couronnement des rois. Et il y avait aussi les proclamations à la guerre. Quand il y avait une guerre, c'était la trompette, c'était l'appel du peuple. Alors il parle, le premier instrument qui est mentionné, c'est celui de la trompette. Est-ce qu'on médite au fait, pourquoi il mentionne la trompette en premier? La trompette, comment est utilisée dans les Écritures? On ne le fait pas, mais c'est à cause du fait qu'on ne le fait pas qu'on manque des choses comme ça. Pour ça, il parle de la lyre et de la harpe. Là, ils disent que la lyre, c'est un instrument à cordes sur lequel on frappe. Et certains auteurs disent que ça suggère la proclamation de la loi dans l'Évangile. Tu frappes. Après ça, il dit la harpe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je connais un site américain où ils ont exclu de leur magasin toute œuvre qu'ils considèrent mauvaise. Autrement dit, du rock'n'roll avec des paroles chrétiennes dessus, il n'y a pas de cochonnerie de main. Juste la musique de très haute qualité. Et je me souviens, la première fois, je disais à Lucie, on était à Québec, elle dit, viens ici, viens écouter la harpe. Une chrétienne qui joue de la harpe. Pas de farce, les poils t'artrussent, là. C'est beau. Pourquoi la harpe suggère plutôt la proclamation de l'Évangile? Après avoir tapé avec la loi, là, tu parles de l'harmonie, la douceur et de la joie de l'Évangile par la musique de la harpe. On sait que David était un grand joueur de harpe. Après ça, on pourrait continuer avec chaque instrument. On pourrait aller voir comment la Bible en parle, quel rôle que toutes ces affaires-là avaient dans la Bible. C'est très riche. Quand on dit que la Bible est riche, c'est pas à peu près, là. Alors, une autre chose qu'il mentionne, qui est assez extraordinaire, c'est celui de la danse. Avez-vous déjà été dans un culte où vous avez vu le monde danser? Dans certaines dénominations, ils le font encore. Mais je pense que l'idée n'est pas qu'on se devrait se mettre à danser dans un culte. Je pense pas que ce soit ça qui est l'idée, à ma compréhension. C'est plutôt de suggérer que notre adoration et nos louanges doivent se faire dans la jubilation et dans l'exultation. Des fois, si on chante quelque chose, puis ça nous émeut, puis qu'on a envie de pleurer, bien allons-y, pleurons, pas grave, là. La danse, ça implique que tout le corps contribue, participe à l'adoration. Alors, c'est pas défendu de... Et on parle aussi de l'autre principe, donc la diversité, dans les versets 3 à 6. On parle aussi de l'universalité de la création. David termine son psaume par trois choses. Un désir, une prière et une exhortation à imiter son action. Le psaume 146, versets 1 et 2, ça dit « Louez l'Éternel, mon âme. » Et là, ça devient personnel. « Mon âme, pas ton âme. Mon âme. Loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » J'ai mis 4 applications. Première application, louons le Seigneur avec révérence. Louons le Seigneur avec gratitude. Louons le Seigneur rétrospectivement et prospectivement. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Louons-le parce qu'il a fait dans le passé. Louons-le parce qu'il va faire dans l'avenir. On peut le louer. Étudions les œuvres de Dieu et habituons-nous à voir toute la gloire de Dieu dans chacune d'elles. Souvenez-vous quand Christ est venu sur la terre? Examine la liste des champs. Et tu vas te rendre compte qu'il est habillé plus richement que le roi Salomon. Salomon, c'était l'homme le plus riche de la terre à cette époque-là. Puis d'ailleurs, il dit, fais juste observer une fleur, puis tu vas te rendre compte qu'elle est mieux habillée que le roi le plus riche de la terre. C'est assez extraordinaire, ça. Souvent, on a plein de choses autour de nous, on ne se donne pas la peine de s'arrêter, d'examiner, de louer, de regarder la structure, comment les choses sont faites. C'est plein de beauté, c'est plein d'harmonie. Deuxième application, je dirais, méditons davantage de manière à mieux apprécier la personne même de Dieu. Tout à l'heure, on parlait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois personnes ont un rôle à jouer qui est un peu différent l'un de l'autre, mais qui ont tout, ça se chevauche tout, bien entendu. Mais apprendre à connaître les œuvres de Dieu. N'ayons pas peur de nous acheter un bon livre de théologie en français. Puis de le lire, même s'il y a 800 puis 1200 pages, vas-y pas 1200 pages d'une shot, comme on dit en québécois, là. Vas-y 10-15 pages à la fois. Tu vas finir par passer à travers. Tu vas apprendre plein de choses que tu ne sais pas sur Dieu et qui vont t'amener à louer Dieu d'une manière encore plus intelligente et plus sage. Troisième application, proclamons haut et fort sa gloire dans nos cultes personnels, dans nos cultes de couple, dans nos cultes de famille, et rendons-lui tout l'honneur qui lui est dû. Combien de fois on commence, souvent on commence des prières par, moi j'aime bien l'expression en anglais, c'est « gimme, gimme ». On rentre dans la présence de Dieu, « gimme, 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 donne-moi, 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 donne-moi. » On prend tout le temps de s'arrêter pour prendre conscience devant qui on se trouve et de commencer notre prière par l'adoration, par la louange. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour ta création, pour ta providence, et tout cela. On le fait pas souvent, j'avoue, hein. Moi, je l'avoue, dans ma vie personnelle, des fois, c'est toujours gimme, 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 gimme. Prenons conscience de qui Dieu est, remercions-le, louons-le pour ce qu'il est. Et ça, comme on disait, culte personnel, culte de famille, culte d'église, soirée de prière, tous nos moments, on devrait avoir commencé par une louange au Seigneur. Et la dernière, implorons les grâces nécessaires pour que notre vie et notre marche chrétienne de tous les jours ne contredisent pas la louange divine. Autrement dit, si on aurait le dimanche, on serait le plus beau comportement devant tout le monde, qu'on chante fort, mais dans le fond, dans la semaine, on mène des vies de misérables et de pécheurs, le monde qui nous regarderait dirait, ouais, ils sont bien faits quand ils sont dans l'église, mais quand ils sortent, ils font dur. Alors, organisons-nous pour que ce que les gens voient de nous à l'extérieur corresponde à notre état d'esprit d'adoration quand on veut louer le Seigneur. Que l'Éternel soit loué pour son don ineffable, la glorieuse personne de Jésus-Christ. Amen.